Il y a des gens qui, même dans nos familles, ont la spécialité de mettre le doigt là où ça fait mal. Et Anne, c'est exactement ce qui va se passer. Je vois des sourires, ça sent le vécu. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 9. Et Anne, pour consoler son cœur, elle va monter au temple. Elle va monter au temple. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seule, ses lèvres remuées, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Amen. » Anne souffre non seulement d'avoir été martyrisée par la seconde femme de son mari, puisqu'en ce temps-là, la polygamie était encore tolérée, mais Anne souffre également de ne pas pouvoir enfanter, de ne pas avoir d'enfant. Et cette femme, la coupe étant pleine, va monter au temple et va épancher son cœur devant son Dieu. Elle va le faire de toute son âme. Elle va le faire telle qu'elle est. Elle ne va rien cacher. Et à ce moment-là, des larmes vont monter de ses yeux et le texte nous dit que Anne va pleurer beaucoup. Et à côté d'elle, il y avait le sacrificateur Élie, qui était devenu aveugle, qui tolérait des choses qui n'étaient pas tolérables et qui n'avait pas une vision des choses extrêmement saine. Et cet homme va lui dire, « Sors donc d'ici, tu es ivre. » Et en relisant ce texte, je me suis dit que Élie ne savait pas parler le langage des larmes. Savez-vous que les larmes sont bien plus qu'un simple liquide qui coule de nos yeux? Mais pour Dieu, les larmes sont un moyen d'expression. Pour Dieu, les larmes ont un prix, les larmes ont une signification qui est bien particulière. Et je crois que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes, qui connaissons, qui avons une relation avec Dieu, eh bien, cette relation, elle est basée sur une intimité. Elle est basée sur le fait que dans la présence de notre Seigneur, il n'y a aucun masque, il n'y a rien qui est caché, mais que nous savons nous mettre à nu. Et j'aime l'attitude de cette femme qui, va se mettre totalement à nu devant Dieu. Elle va, dans ce texte, dans sa réponse, elle va parler d'amertume, elle va parler de tristesse. On sent toute la déception et cette femme se met profondément à nu devant Dieu. Et si Élie, le sacrificateur, n'est pas capable d'entendre le langage des larmes, eh bien mes frères, mes sœurs, mon ami, sache une chose, c'est que dans le ciel, tu as un Dieu qui, lui, parle couramment le langage des larmes. Qui lorsque un homme, une femme, eh bien vient sur ses genoux et se met à pleurer, ouvre son cœur, eh bien devant lui. Alors, chaque larme est recueillie. Chaque larme est recueillie. Alors, pour bien poser le sujet, toujours dans cette introduction, je vais balayer rapidement trois types de larmes qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas reçues par Dieu, de manière à passer ensuite un petit peu au concret. Première chose que je tiens à dire, c'est que les larmes ont un certain pouvoir. Les larmes sont capables de soulager, elles sont capables d'attendrir, d'influencer un interlocuteur. Et je pense que pleurer, c'est une nécessité. On se souvient de ce texte du prophète Ézéchiel qui nous dit que notre Dieu, par son esprit, a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et un cœur qui ne sait plus pleurer, c'est bien triste. Le cœur des chrétiens a vocation à être capable de prier. Seconde chose, c'est que les larmes ont des limites. On se souvient de ce que Dieu va dire à Samuel, à son prophète, lorsqu'il va lui dire « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Les larmes, notre vie n'a pas vocation à baigner dans les larmes. Mais il y a des choses qui doivent s'arrêter. On n'a pas vocation à cultiver la souffrance plus qu'elle ne doit être. Et je le dis de temps en temps, mais parfois la souffrance, notre souffrance, on l'aime bien. C'est un bon manteau qui nous tient chaud. C'est un repère, c'est une béquille qui nous permet de vivre et qui nous permet d'avancer. Mon frère, ma sœur, il y a des limites aux larmes. Il y a des limites aux larmes. Et la troisième chose, les troisièmes larmes que notre Dieu ne recueille pas ou ne recueille plus, eh bien, c'est tout simplement les larmes qui, ce que l'on pourrait appeler les larmes de crocodile. Les Gabaonites, dans le livre de Josué, vont utiliser cette technique pour tromper Josué et pour faire conclure une alliance fallacieuse avec lui. Et il se peut qu'on ait tous utilisé à un moment ou à un autre, grand ou petit, cette technique qui a vertu pour obtenir quelque chose à se mettre à pleurer. Mesdames, vous le maîtrisez terriblement bien. Terriblement bien. Et là, finalement, il n'est plus fait mention de tristesse, ce ne sont pas des larmes que notre Dieu recueille, mais ça, il ne s'agit là que de manipulation, voire même de culpabilisation. Et je pense que le chrétien, l'enfant de Dieu, n'a pas à utiliser ce stratagème, parce que ça ne fonctionne pas aux yeux de Dieu, et n'a pas non plus vocation à se laisser berner par ce stratagème, parce que nous avons une certaine forme de discernement. Ces trois choses étant dites, nous allons pouvoir rentrer dans le cœur du sujet avec quatre types de larmes eh bien, que notre Dieu recueille. Première chose, les larmes que Dieu prend en compte, ce sont celles qui sont l'expression de notre humanité. Même Jésus a pleuré. Même le Fils de Dieu a su pleurer. Et je dirais même que c'est l'un des traits de caractère qui caractérise le mieux l'humanité de Jésus sur la terre. Alors qu'il est devant la tombe de Lazare, eh bien, que va-t-il faire? Il va se mettre à pleurer, il va pleurer avec les hommes et les femmes qui pleurent, nous montrant l'exemple que l'apôtre Paul nous demandera eh bien, de perpétuer par la suite, de pleurer avec ceux qui pleurent. De la même manière, alors qu'il est devant Jérusalem, eh bien, il va prononcer ses paroles en pleurant sur elle, en lui disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Et la phrase d'avant dit que Jésus va pleurer sur elle. Donc, on s'aperçoit que le Fils de Dieu est capable d'exprimer les choses et est capable même de pleurer sur les choses. L'auteur aux Hébreux nous dit que dans sa propre piété, Jésus va même pleurer, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qu'il pouvait le sauver de la mort. Jésus a pleuré. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que les larmes, pour tout enfant de Dieu, c'est quelque chose qui est normal. C'est juste le témoignage de notre humanité. Le problème vient lorsque nous ne sommes plus capables de pleurer. Et parfois, je pense que l'on aurait vocation à se repentir. Parce que justement, nous pleurons ou nous ne pleurons plus sur les bonnes choses. Jésus, lorsqu'il pleure sur Jérusalem, il pleure sur cette ville à qui le message a été donné et qui pourtant va le refuser. Est-ce que dans notre piété, nous sommes capables de pleurer pour les perdus? Est-ce que nous avons ce même cœur que le Maître pouvait avoir pour ceux et pour celles qui finalement n'ont pas reçu le message de Jésus? Avons-nous cette capacité d'empathie à souffrir avec ceux qui souffrent? Pour bien prier, il est nécessaire de souffrir avec la personne. Sinon, ça ressemble un tantinet à de la religiosité. Sommes-nous capables, finalement, de prendre sur nous, pendant un temps, la misère, la peur, les doutes que notre frère, notre sœur peut ressentir? Les larmes, je dirais, font non seulement partie de notre vie, mais elles font également partie de notre piété, de notre relation avec Dieu. Ce qui ne fait pas du tout de nous des pleurnichards, mais qui fait de nous des hommes et des femmes de cœur. Lorsque je considère ce trait de caractère que Jésus manifestait à merveille, je me dis qu'encore dans le ciel, nous avons un Dieu, comme le dit l'auteur aux Hébreux, qui est compatissant et miséricordieux et plein de grâce. Et j'ai le fol espoir et la folle assurance d'ailleurs que Jésus continue à pleurer avec nous. Que lorsqu'il voit un de ses enfants dans la souffrance, son cœur ne reste jamais indifférent. Quoi que tu puisses penser, Jésus n'est pas indifférent à ce que tu vis. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu ressens. Jésus n'est pas indifférent aux pincements de cœur qui peuvent être les tiens. Jésus n'est pas indifférent aux souffrances que tu peux ressentir. Les larmes du Maître, elles sont encore actuelles aujourd'hui et elles sont fonction de ton état de cœur. C'est extraordinaire de se dire que notre Dieu ne se contente pas de nous regarder vivre, mais que notre Dieu partage notre vie, partage notre cœur, partage nos états d'âme, partage la manière dont notre âme évolue. Lorsque notre âme est dans la joie, alors, eh bien, il est dans la joie. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel, notamment lorsqu'un pécheur se repent. Ce serait une bonne idée d'ailleurs, si parmi nous... Mais, de la même manière, il peut y avoir de la souffrance dans le cœur de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, notamment, nous le voyons que Dieu souffrait profondément lorsqu'il contemplait son peuple en train de mal agir. Il peut y avoir de la fierté dans le cœur de Dieu lorsqu'il parle de Job, par exemple. Et on s'aperçoit de ce fait que le cœur de Jésus, le cœur de notre Maître, le cœur de notre Seigneur, ressent et que ses ressentis sont fonction de ce que nous-mêmes nous pouvons vivre. Ça me fait du bien. Si tu te sens seul à pleurer, sache que dans le ciel, ton Dieu dans le tabernacle céleste pleure avec toi. Et sache qu'il est capable de te secourir. Et sache qu'il te secourra. De la même manière que la sentinelle sait que le jour viendra, alors qu'elle est en train de garder, c'est ce que nous dit un psaume, alors qu'elle est en train de garder la ville et que les heures de la nuit s'appesantissent quelque peu, elle sait, elle a l'espérance qu'un jour, qu'à un moment donné, le jour poindra et que la relève viendra. De la même manière, celui qui pleure aujourd'hui avec toi, viens, il est en route et le jour se lèvera où la délivrance germera promptement parce qu'il reste et parce qu'il demeure fidèle. Second type de larmes, c'est les larmes qui sont en relation avec la souffrance. Et là, notre Dieu, bien sûr, les recueille sans aucun problème, sans aucun souci. Souffrance à cause de l'épreuve. Et l'épreuve, nous y passons tous d'une manière ou d'une autre. Souffrance à cause de notre foi. Et là encore, on peut en penser notamment au psaume 42, au verset 4, qui dit « Que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Où est ton Dieu ? Des larmes à cause des drames de notre vie. Et malheureusement, là encore, nous en vivrons tous. Des larmes à cause peut-être de nos propres erreurs et des conséquences du péché que nous avons laissé venir dans notre vie. Et là, c'est extraordinaire de se dire que même ces larmes-là, notre Dieu les recueille. Même quand nous sommes coupables et que nous pleurons à cause de notre culpabilité, notre Dieu les recueille. Alors que nous, on aurait parfois plutôt tendance à mettre une paire de claques. Mais notre Dieu les recueille. La souffrance à cause de la détresse ou d'une situation extrême. Notre Dieu les recueille. Et on a là l'exemple du roi Ézéchias, à qui Dieu va annoncer que la mort est proche. Et que va faire Ézéchias ? Eh bien, il va tourner son regard contre le mur et il va prier l'Éternel. Et il est dit un petit peu plus loin, alors qu'Ésaïe est encore dans la cour, que Dieu a entendu, c'est Dieu qui parle, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Et les choses vont changer pour Ézéchias, des jours vont lui être donnés en plus. Nous ne disserterons pas sur l'utilisation qu'Ézéchias va faire de ses jours. Que fait Dieu de ses larmes ? En Jésus se trouve le pouvoir d'être profondément consolé. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, quel que soit ce que nous pouvons vivre, En Jésus se trouve le pouvoir d'être consolé. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu veux le vivre ? En Jésus, il y a cette capacité de pouvoir vivre l'épreuve, vivre le deuil, vivre des moments terribles en pleurant, mais en vivant la consolation en même temps. C'est un petit peu l'image de l'arc-en-ciel. Vous savez, ces moments où il pleut, mais où il y a également de la lumière en même temps. Et finalement, c'est ce que Jésus est capable de donner à ses enfants et à ceux qui veulent marcher avec lui, à ceux qui le lui demandent. Il y a ce texte que l'on trouve à deux reprises dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit que l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la ville, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Me direz-vous, c'est dans l'éternité ? Moi, j'aime bien m'y projeter de temps en temps dans l'éternité. De me dire que toutes les larmes que l'on a pu souffrir, tout ce que l'on a pu verser, avec mon imagination féconde, je vois la main percée du maître venir là, et puis poser son doigt, caresser la joue, et enlever toutes les larmes, une par une. Quelle belle image !